Le titre de notre message ce matin, c'est « Vous êtes mes témoins ». Vous êtes mes témoins. Ce titre est tiré directement d'Ésaïe, chapitre 43, versets 10 à 12. Ésaïe 43, 10 à 12. Et je vous invite à lire ce passage. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Cette déclaration montre que Dieu a besoin des gens qui non seulement comprennent, mais surtout également qui peuvent parler aux autres de Dieu, de ce qu'il est, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. On dit généralement qu'il n'y a pas d'histoire sans les historiens. Le 14 juillet ne serait rien s'il n'y avait pas les gens à travers le temps depuis qui ont écrit, qui ont réfléchi et qui ont enseigné ce qui s'est passé le 14 juillet. Et comme il avait dit aux enfants d'Israël dans le passé, dans le passage que nous venons de lire, Dieu nous le dit aussi aujourd'hui, vous êtes mes témoins. C'est un besoin de la part de notre Dieu de se faire connaître, d'avoir les témoins. La question peut se poser alors, comment recevons nous et exécutons-nous cette responsabilité d'être les témoins de Dieu? Sommes-nous capables de l'être fidèlement et courageusement? Et surtout, aujourd'hui, dans le monde où nous vivons. En effet, ce témoignage de Dieu doit porter sur les trois axes de ce que nous savons de lui. En premier lieu, Dieu nous appelle à être témoins de ce qu'il est. Et c'est vraiment le point de départ. Témoins de ce qu'il est. Car pour nous-mêmes, c'est essentiel d'être convaincus de savoir et de pouvoir répondre à la question « Qui est Dieu ?» Cette conviction doit rester tellement forte en nous que nous pouvons l'exprimer, le parler aux autres très facilement. Nous avons cette responsabilité, ce besoin profond de connaître qui est Dieu. Heureusement, frères et sœurs, la Bible nous donne les réponses nécessaires. C'est ainsi dans Genèse chapitre 17, verset 1, nous trouvons la première réponse à cette question, qui est Dieu, pour nous aider dans le témoin de ce qu'il est. Genèse 17, verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, L'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. » Je suis le Tout-Puissant. Donc cela nous donne la première aperçu, la première réponse, la première connaissance de ce qui est Dieu. Il est le Tout-Puissant. Ce qui veut dire que nous avons un Dieu qui est tout-puissant, qui a tout le pouvoir. Il est le Tout-Puissant. Et ça, chacun doit tenir ferme dans ça. Dans son esprit, dans sa connaissance de ce qui est Dieu. Dans Genèse 21, verset 33, nous avons encore une réponse à cette question, qui est Dieu? Genèse 21, 33. Abraham planta des tamarisques à Beersheba. Et là, il invoqua le nom de l'Éternel, Dieu de l'éternité. Voilà la deuxième réponse, la deuxième connaissance qu'il nous faut avoir de Dieu. Dieu de l'éternité. Ce qui veut dire que notre Dieu, que le Dieu en qui nous mettons la confiance, n'est pas un Dieu fabriqué, un Dieu passager, c'est Dieu de l'éternité. Étant Dieu de l'éternité, nous avons ce plaisir, cette joie de dépendre de lui, car étant le fait qu'il est toujours là, il sait tout, il peut tout, il est Dieu de l'éternité. Pour encore trouver une réponse à cette question, de la recherche que nous faisons de la connaissance de Dieu. Dans Genèse chapitre 14, la Bible nous donne encore une réponse, versets 18 et 19. Genèse 14, 18 et 19. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. » Troisième connaissance, troisième réponse à notre question qui est Dieu, c'est le Dieu très haut. Donc nous avons Dieu très haut comme notre Dieu. Étant Dieu très haut, il est au-dessus de tout. Et nous pouvons affirmer dans notre témoignage que nous avons un Dieu très haut. Dans notre conviction personnelle, tous les jours, jour et nuit, nous devons nous reposer sur cette vérité que notre Dieu est Dieu très haut. Et en quatrième lieu, nous pouvons voir trouver la réponse à cette question dans Exode 3, versets 13 à 15, à la question « Qui est Dieu ?» Exode 3, versets 13 à 15. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. » Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui est. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui est m'envoie vers vous. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Dieu nous appelle à être ses témoins. Si à travers des siècles, les chrétiens ont maintenu, ont resté fidèles à cette responsabilité d'être témoins de Dieu, nous aurons le monde, au moins tous ceux qui sont, ceux qui croient en Dieu, auront gardé cette vérité et annoncé aux autres cette vérité que Dieu est Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, c'est-à-dire Dieu d'Israël. Notre Dieu est celui qui est. Et celui qui est se traduit en Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Vous voyez, il y a quelque part aujourd'hui dans le monde, on peut avoir peur de dire, de parler au Dieu d'Israël, de mentionner Dieu d'Israël aux gens. Et pourtant, c'est ce que Dieu nous demande de dire, de ce qu'il est. Et pourtant, c'est ce que nous, en tant que chrétiens, en tant que ceux qui croient en lui, doivent comprendre, doivent saisir, doivent le dire. Et si tous ceux qui croient en Dieu, à travers des siècles, ont gardé ça, il n'y en a pas de gens qui seraient offensés d'apprendre, d'entendre les gens dire « Dieu d'Israël », de mentionner le nom de Dieu d'Israël, parce que c'est ce qu'il est. Est-ce que nous n'avons pas, nous, les croyants, à travers des siècles, n'ont pas manqué à notre responsabilité? Car Dieu dit « Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. » Donc, personne ne peut effacer cette réalité. Je suis celui qui suis. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Vous êtes mes témoins. Témoins de ce qu'il fait. Frères et sœurs, savez-vous la plus grande chose que Dieu a fait? C'est la création. Dieu cria. Dieu a fait. Dans Genèse chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, « Au commencement, Dieu cria les cieux et la terre. » Et dans verset 27 de ce chapitre 1 de Genèse, nous lisons, « Il cria l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Dieu a fait, Dieu a créé le monde, les cieux et la terre. Et c'est ça que nous, c'est ça qui nous confie dans notre témoignage d'être, dans notre responsabilité de témoignage, d'annoncer que c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Nous devons avoir cette conviction aussi en nous-mêmes pour pouvoir le dire. Vous voyez la difficulté? Il y a une difficulté. La difficulté, c'est que nous sommes, chacun est né pour tout voir. Un enfant dans une famille, il voit qu'est-ce qu'il veut, il voit papa et maman, pour que cet enfant, il est le produit de la rencontre, de vie en couple de papa et maman. Il n'a pas d'autre notion que ça. Et chacun qui est né dans le monde, qui voit tout qui est déjà là, les arbres, tout dans la nature, comment, objectivement, il ne peut pas penser autre chose. Il est habitué. Les beaux arbres que nous avons devant notre église, c'est la mairie qui a fait planter. Les routes, ce sont les ingénieurs de ponts et chaussées, etc., etc. On est habitué de l'environnement et donc dire à quelqu'un que Dieu parlait à quelqu'un, Dieu a crié, c'est pas facile d'assimiler, d'accepter. Mais et nous, comment nous savons que c'est Dieu qui a crié? Mais c'est parce que la Bible nous dit. Et c'est ça, c'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, vous êtes mes témoins. Parce qu'il faut qu'il y ait ceux qui disent aux autres que ce que vous voyez, ce n'était pas par hasard, que je ne viens pas comme ça dans le monde. C'est Dieu. Aujourd'hui, c'est le 14 juillet. Vous savez ce qui est le 14 juillet en France? C'est la fête nationale. La fête. Mais si vous pouvez faire venir, si on peut faire venir les gens qui étaient en France le 14 juillet 1789, ils peuvent vous dire en toute vérité que ce n'était pas la fête. Hein? Donc, il faut qu'il y ait ceux qui disent aux autres ce qui s'est passé le 14 juillet. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête. C'est les balles, c'est les danses. Mais le 14 juillet 1789, ce n'était pas ça, hein, je peux vous le dire, frères et sœurs. On sait que ce n'était pas ça. Donc, les gens facilement oublient les choses. Ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont nés pour toujours voir 14 juillet, par exemple, comme la fête. Les gens sont nés pour voir le monde tel qu'il est avec toutes ces choses. Ils sont là. Donc, naturellement, ce n'est pas évident de savoir que Dieu, que c'est créé par Dieu, appelle par Dieu de dire, dis-les, soyez mes témoins pour les faire connaître. Frères et sœurs, une autre chose très importante que Dieu a fait, c'est de nous avoir facilité la vie en nous permettant d'obtenir le pardon de nos péchés par une simple expression de foi dans ce que lui, Dieu, a fait en donnant son propre Fils qui est descendu du ciel pour mourir à la croix à notre place, en versant son sang qui nous purifie de nos péchés. Cet acte, cette chose que Dieu a fait est tellement importante que Dieu nous appelle à être ses témoins. Parce que ce pardon par Jésus, à cause du sang de Jésus, les gens ne peuvent pas saisir si facilement. Et pour nous, lorsque nous lisons en Hébreux chapitre 9, je vous invite à voir quelle grande bénédiction que nous avons dans ce que Jésus a fait pour nous, dans ce que Dieu a fait pour nous par Jésus. Ce n'était pas toujours si facile hein, d'obtenir le pardon de Dieu que nous jouissons aujourd'hui. Hébreux chapitre 9, Hébreux 9, 6 à 7, ensuite 11 à 14. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur, seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et qu'il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre de vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes avant que vous serviez le Dieu vivant. Dieu nous a vraiment facilité la vie. Vous vous imaginez le nombre des animaux qu'il a fallu tuer chaque année. Le souverain sacrificateur qui entrait dans le tabernacle une fois par an. Le sang de Jésus nous procure aujourd'hui le pardon. En tant que témoins de Dieu, nous devons être si imprégnés, si enracinés, si convaincus de ce salut que Dieu offre, que cela doit sortir très naturellement de nos bouches dans notre témoignage. Dieu nous appelle, vous êtes mes témoins pour porter cette nouvelle au monde. Et Dieu nous a vraiment aimés en nous facilitant la vie, hein, parce que frères et sœurs, acheter les animaux chaque année, je suis sûr que vu le nombre de personnes, ce n'est pas une chose facile. Et on va sur le plan personnel, chacun de nous, pour voir et constater ce que Dieu fait pour nous. À tel point que nous pouvons crier avec et comme les enfants d'Israël, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous, nous sommes dans la joie. Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui ne peut pas témoigner, qui n'a pas vu ce que Dieu a fait pour chacun? Je ne crois pas qu'il n'y a aucun de nous qui ne peut pas dire que Dieu a fait quelque chose. Et ce sont ces Dieu, ces choses que Dieu fait pour nous, que nous témoignons, que nous pouvons partager avec les autres. En l'honneur de notre Dieu, vous êtes mes témoins. Je suis très convaincu, frères et sœurs, que cette réalité de témoin de ce qu'il fait est à notre portée, à chacun de nous. Dieu est témoin aussi de ce qu'il dit. Nous avons vu, ça a l'air plus haut, que, qu'une des grandes choses que Dieu a fait, c'est la création. Dieu a non seulement créé l'homme et la femme, comme il dit dans Genèse chapitre 2, verset 24, que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Par là, Dieu institue le mariage. C'est lui qui dit que l'homme quittera son père et sa mère. Et Jésus réaffirme cette vérité lorsqu'il dit aux pharisiens dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, verset 4 à 6 et verset 9. N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. 9. Les pharisiens, Jésus continue, mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée, commet aussi un adultère. Frères et sœurs, notre Dieu est omniscient. Il voit la fin dès le commencement. Il a vu que surtout à la fin des temps où nous vivons actuellement, il y aura une remise en question quasi généralisée de l'institution du mariage. D'où son appel qui nous adresse, nous qui croyons en lui, vous êtes mes témoins. Témoins de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Que l'homme, que le mariage, que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Donc, Dieu établit un mariage entre homme et femme. Et la société aujourd'hui a même fait la loi qui permet le contraire. Parce que je suis très sûr qu'on peut dire que si les chrétiens, pendant tout le temps, ont affirmé ce témoignage que le mariage, selon Dieu, doit être ainsi entre homme et femme, ce sera difficile de toutes ces déviations que nous voyons aujourd'hui. En tout cas, nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, c'est ça notre position. C'est ça ce que nous affirmant. Le mariage institué par Dieu, c'est entre homme et femme. Les gens ont trouvé toute justification, toute raison qui les convient pour accepter le divorce, pour se divorcer. Mais nous savons que ce que Dieu nous demande, c'est un seul cas qui peut nous pousser au divorce, l'infidélité. Hors de ce cas, la parole de Dieu ne nous permet pas d'accepter tout raisonnement que la société nous impose concernant pour faciliter le divorce. Il faut qu'il y ait un groupe de gens, même dans cette génération corrompue, qui tiennent ferme, qui respectent ce que Dieu dit et qui le proclament aux autres. Vous avez constaté que Jésus nous a ouvert une petite fenêtre pour le divorce, frères et sœurs, c'est-à-dire en cas de l'infidélité. C'est la seule. Vous avez aussi constaté que le mariage aux yeux de Dieu se passe entre homme et femme. Ce sont les vérités fondamentales que nous, les témoins de Dieu, doivent affirmer. Oui, vous êtes mes témoins. Témoins de quoi? Témoins de ce qu'il dit. Frères et sœurs, dans l'exercice de notre responsabilité de témoin de ce que Dieu dit, avant de nous éviter de se demander telle chose que Dieu a dit, est-il pour nous aujourd'hui ou encore, ou était-il pour le passé? Avant de nous éviter de tomber dans ce piège, Jésus nous confirme et nous rassure dans Matthieu 5, 17 et 18. La facilité de suivre le monde de pensée est en danger, d'où la position de ce que Jésus nous dit. Matthieu 5, verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Jésus est venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je veux le dire en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit accompli. C'est ça, cette position de Jésus nous protège contre tout compromis, contre d'être pris par le piège de suivre ce que ceux qui ne sont pas en Dieu peuvent accepter comme raisonnement pour dire que c'est l'évolution, que la mentalité évolue. Non, avec Dieu, ce n'est pas ça. Frères et sœurs, toute tentative de faire évoluer ou d'adapter la parole de Dieu n'est pas l'œuvre de témoins fidèles de Dieu. Toute démarche, toute position ou toute opinion qui vise à justifier une déviation de ce que Dieu dit vient non de l'Esprit de Dieu, mais de l'Esprit de Genèse 3.1. Qu'est-ce que c'est Genèse 3.1? Dieu a-t-il réellement dit? Le doute. Et puis, on accepte de dévier. Mais tout, Dieu nous met en garde. Dieu nous dit de rester témoins fidèles. Enfin, frères et sœurs, Dieu dans son amour, et sachant combien nous pouvons si facilement tomber dans le péché, nous dit dans 1 Jean 8 et 9, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Cette œuvre de pardon est un bagage essentiel dans notre ministère qui répond à notre Dieu qui nous dit « Vous êtes mes témoins ». Car le pardon est un don de Dieu que nous avons à présenter au monde. Enfin, le Seigneur Jésus nous offre un autre nouveau chapitre lorsqu'il déclare aux disciples dans Actes 1, verset 8, comme notre frère Olivier nous a souligné dimanche dernier dans son message. Vous serez mes témoins. Témoins de quoi? Tout simplement, témoins du royaume de Dieu. En effet, Jésus étant l'aboutissement et l'accomplissement de tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, confie ainsi à ses disciples, à son Église, un nouveau thème central de leur témoignage, le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que en face, il y a l'enfer. Et beaucoup s'y dirigent. Hein? Frères et sœurs, témoigner du royaume de Dieu, c'est se lancer dans un champ de bataille rude. Car le chef de file pour attirer les gens dans l'enfer, le prince de ce monde, Satan et ses agents, sont très actifs dans leur mission d'empêcher les gens de suivre Dieu. D'où la promesse du Seigneur d'équiper spécialement ses disciples avec la puissance dont eux, la force que Satan ne peut égaler, le Saint-Esprit. Ainsi donc, frères et sœurs, saisissant cette force du Saint-Esprit, dépendons entièrement de lui pour être et rester les témoins non compromettants du Seigneur qui nous dit « Vous êtes mes témoins ».